Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Histoire du Moyen-Âge de Georges Minois » est une synthèse historique de grande ampleur consacrée à près d'un millénaire d'histoire européenne et méditerranéenne, de la fin de l'Antiquité à l'aube de la Renaissance. L'ouvrage relève de l'essai historique et vise moins à raconter une suite d'événements isolés qu'à restituer la cohérence d'une période souvent réduite à des clichés. Minois y propose une lecture chronologique structurée et accessible, attentive aux dynamiques politiques, religieuses, sociales, économiques et culturelles. Le livre s'attache aussi à replacer l'Occident médiéval dans un espace plus large, en particulier face à Byzance et au monde musulman, afin de montrer la circulation, tensions et influences réciproques qui ont façonné l'époque. Son objectif central est de donner au lecteur des repères solides pour comprendre ce que le Moyen-Âge a produit, transformé et transmis au monde moderne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, restituer la cohérence d'un millénaire souvent caricaturé. Le premier intérêt du livre est de corriger l'image fragmentée du Moyen-Âge, qui domine encore dans la mémoire collective. Georges Minois ne traite pas cette période comme un décor sombre ou comme une simple succession de crises, mais comme un ensemble historique continu qu'il faut remettre en ordre. Sa démarche consiste à rétablir les faits dans leur enchaînement logique et chronologique, ce qui permet de comprendre les transformations de longue durée plutôt que d'isoler quelques épisodes célèbres. Cette méthode est importante, car le Moyen-Âge est souvent perçu à travers des stéréotypes contradictoires, tantôt âge obscur, tantôt âge d'or. En adoptant une synthèse rigoureuse, l'auteur cherche à dépasser ces images simplificatrices. Le lecteur obtient ainsi une vision plus stable de la période, avec ses ruptures, ses continuités et ses équilibres internes. Le livre se distingue donc par sa volonté de redonner une intelligibilité globale à un temps historique, fréquemment morcelé par l'enseignement scolaire ou les représentations médiatiques. Deuxièmement, relier l'Occident médiéval à Byzance et au monde musulman, un autre axe majeur de l'ouvrage est l'élargissement du regard au-delà de l'Europe latine. Minois insiste sur le fait que le Moyen-Âge occidental ne peut pas être compris isolément, car il s'est développé dans un environnement marqué par les puissances byzantines et musulmanes. Cette perspective évite de réduire l'histoire médiévale à l'histoire d'une Europe repliée sur elle-même. Au contraire, elle met en évidence les échanges commerciaux, culturels, religieux et militaires qui ont structuré la période. Les relations avec l'Orient ne sont pas présentées comme un simple arrière-plan, mais comme un élément constitutif de l'évolution occidentale. Cette approche permet de mieux saisir la place des croisades, des transferts de savoir et des contacts entre civilisations. Elle donne aussi du relief à la chronologie générale en montrant comment les équilibres de puissance changent selon les siècles. Le lecteur comprend alors que le Moyen-Âge est aussi une histoire d'interdépendance et de confrontation à l'échelle de l'Eurasie. Troisièmement, une lecture politique, sociale, religieuse et culturelle de la société médiévale, le livre ne se limite pas à l'histoire des rois, des guerres ou des grands événements. Sa force tient aussi à l'intégration de plusieurs dimensions de la vie médiévale dans un même récit analytique. Minois aborde les institutions, les hiérarchies sociales, les formes de production, les croyances, la culture savante et les représentations religieuses. Cette articulation est essentielle car elle montre que la société médiévale repose sur un ensemble de structures imbriquées et non sur une seule logique politique. La religion, par exemple, n'est pas traitée comme un domaine séparé, mais comme une force qui organise les valeurs, le pouvoir et les imaginaires. De même, les évolutions économiques et sociales éclairent les transformations des États et des villes. Cette manière de procéder aide le lecteur à comprendre les interactions entre les différents plans de l'histoire. Le Moyen-Âge apparaît alors comme une civilisation complète, avec ses tensions internes, ses institutions durables et ses mutations profondes, plutôt que comme une simple suite de règnes ou de batailles. Quatrièmement, mettre en évidence les crises du XIVe et du XVe siècle comme charnières historiques, l'ouvrage accorde une place importante au dernier siècle du Moyen-Âge, souvent présenté comme une phase de crise et de transition. Minois y montre l'impact combiné des guerres, des famines, des épidémies et des recompositions politiques, sans réduire cette période à une simple décadence. Ces crises ont une fonction historique précise, elles modifient les structures sociales, renforcent certains pouvoirs et préparent l'émergence d'un monde nouveau. L'intérêt de cette lecture est de relier les catastrophes apparentes à des transformations de fond. La guerre de Cent Ans, la peste ou les tensions religieuses ne sont donc pas seulement des faits spectaculaires, mais des révélateurs de changements plus profonds dans l'organisation de l'Europe. Cette perspective permet de comprendre pourquoi la fin du Moyen-Âge n'est ni un effondrement pur, ni une naissance immédiate de la modernité. Le livre insiste plutôt sur un passage complexe, où coexistent instabilité, innovation et recomposition des équilibres politiques et culturels. En dernier lieu, une synthèse accessible qui sert d'outil de référence et de mise à niveau. Au-delà de son contenu, le livre se distingue par sa fonction pratique. Il s'adresse à un large public qui cherche une base solide pour comprendre le Moyen-Âge sans devoir entrer immédiatement dans des études spécialisées. Son intérêt tient à sa capacité à fournir un cadre chronologique, des repères conceptuels et une vision d'ensemble utilisable pour la lecture, l'enseignement ou la révision personnelle. L'écriture est conçue pour rester lisible malgré l'ampleur du sujet, ce qui en fait un ouvrage de synthèse plus qu'un traité érudit réservé aux spécialistes. Le lecteur y trouve un bon point d'entrée pour ensuite approfondir des thèmes précis comme la féodalité, les croisades, l'église, les monarchies ou la culture médiévale. Cette utilité explique en partie la valeur durable du livre, il ne remplace pas les monographies spécialisées, mais il offre la cohérence générale qui manque souvent aux ouvrages fragmentaires. C'est précisément cette combinaison de clarté, de rigueur et d'ampleur qui le rend distinctif dans sa catégorie. En conclusion, Histoire du Moyen-Âge de Georges Minois conviendra particulièrement aux lecteurs qui veulent comprendre cette période dans sa globalité, sans se contenter d'images scolaires simplifiées ou de portraits anecdotiques. Il sera utile aux étudiants, aux enseignants, aux amateurs d'histoire et à toute personne cherchant un repère fiable sur un millénaire de transformations européennes. Son principal apport est de proposer une synthèse dense mais lisible, qui relie les dimensions politiques, sociales, religieuses et culturelles, au lieu de les traiter séparément. Le livre se démarque aussi par son ouverture géographique, puisqu'il replace l'Occident médiéval dans ses relations avec Byzance et le monde musulman, ce qui enrichit nettement la compréhension d'ensemble. Comparé à beaucoup d'ouvrages du même genre, il privilégie la cohérence historique et la mise en perspective, plutôt que l'accumulation d'anecdotes. C'est donc un bon choix pour acquérir une vision structurée du Moyen-Âge, repérer les grandes phases de son évolution et mieux mesurer son héritage dans le monde moderne. Si vous souhaitez soutenir Georges Minois, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !